Aristote, Parva Naturalia, traduction Jules Barthélemy Saint-Hilaire. Du sommeil et de la veille. Chapitre 1er. Sommaire. Questions diverses qu'on peut se poser sur le sommeil et sur la veille, sur les rêves et sur la divination. Le sommeil et la veille appartiennent à une même faculté, à la sensibilité qui est commune au corps et à l'âme. Le sommeil et la veille doivent se succéder alternativement. L'activité ne peut être continuelle. Quelques exemples tirés de la physiologie comparée. Volatiles, animaux aquatiques et terrestres, mollusques, insectes, etc. Tout animal dort parce qu'il est sensible. Les végétaux ne dorment pas parce qu'ils n'ont que la faculté nutritive qui s'exerce mieux durant le sommeil. Paragraphe 1. Étudions maintenant le sommeil et la veille. Quels sont ces deux phénomènes? Est-ce à l'âme qu'ils appartiennent en propre? Est-ce au corps? Ou bien sont-ils communs aux deux? Et s'ils sont communs à l'un et à l'autre, à quelle partie de l'âme et du corps appartiennent-ils? Pourquoi les animaux ont-ils ces deux fonctions? Est-ce que tous les animaux possèdent les deux à la fois? Ou bien ceux-ci ont-ils l'une de ces facultés, tandis que ceux-là n'ont que l'autre? Y a-t-il des animaux qui ne jouissent d'aucune d'elles, tandis que d'autres les ont simultanément? Paragraphe 2. On peut encore se demander ce que c'est que rêver et pourquoi dans le sommeil, tantôt on rêve et tantôt on ne rêve pas. Ou bien doit-on croire qu'on rêve toujours quand on dort et que seulement on ne s'en souvient pas? Et s'il en est ainsi, quelle est la cause de cette continuité des rêves? Paragraphe 3. Peut-on découvrir l'avenir dans les songes? Ou bien, est-ce là une chose impossible? Et si cela se peut, comment cela se peut-il? Ne peut-on découvrir que l'avenir qui dépend des actions des hommes? Ou peut-on découvrir aussi cet avenir qui n'a pour cause que la volonté des dieux et les phénomènes naturels, c'est-à-dire les phénomènes naturels et spontanés? Paragraphe 4. D'abord, il est de toute évidence que le sommeil et la veille appartiennent à la même partie de l'animal, car ces fonctions sont opposées l'une à l'autre, et le sommeil ne paraît qu'une sorte de privation de la veille. Or, les contraires pour toutes les choses que ne fait pas la nature, aussi bien que pour celles qu'elle fait, paraissent toujours se produire dans un seul et même sujet qui peut les recevoir. Et ils sont les affections d'un même être. On pourrait citer bien des exemples. Ainsi, la santé et la maladie, la beauté et la laideur, la force et la faiblesse, la vue et la cécité, l'ouïe et la surdité. Paragraphe 5. Voici bien encore ce qui démontre l'opposition du sommeil et de la veille. C'est que le même signe qui nous fait connaître que l'homme est éveillé nous fait connaître aussi qu'il est dans le sommeil. Quand un homme conserve sa sensibilité, nous pensons qu'il est éveillé. Nous pensons que tout être qui est éveillé a la sensation, soit de l'une des choses qui se passent au dehors, soit de l'un des mouvements qui s'accomplissent en lui. Si donc être éveillé ne consiste absolument qu'à sentir, on peut conclure évidemment que le principe qui fait que l'on sent est aussi celui par lequel les animaux veillent quand ils veillent et dorment quand ils dorment. Paragraphe 6. Or, sentir n'appartient en propre ni à l'âme ni au corps, puisque l'acte se rapporte au principe auquel se rapporte la puissance, et que ce qu'on appelle la sensation en tant qu'acte n'est qu'une espèce de mouvement que l'âme reçoit par le moyen du corps. Par conséquent, l'on peut évidemment affirmer et que l'affection de la sensibilité n'appartient pas en propre à l'âme toute seule et qu'un corps sans âme ne peut sentir. Antérieurement, nous avons déterminé dans d'autres ouvrages ce qu'on doit entendre par les parties de l'âme. Nous y avons établi que la partie nutritive peut être séparée des autres dans les êtres qui ont la vie, tandis qu'aucune des autres ne peut exister là où celle-là n'est point. Par suite, il est clair que les êtres vivants, qui n'ont en partage que les fonctions d'accroissement et de destruction, n'ont ni sommeil ni veille, par exemple les végétaux. C'est qu'ils n'ont pas la partie sensible de l'âme, qu'elle soit d'ailleurs séparable ou inséparable, car par sa fonction et par son essence, elle est séparable. Paragraphe 7. Pour la même raison, il n'est point d'animal qui dorme toujours ni qui veille toujours. Mais ces deux facultés appartiennent toutes deux à la fois aux mêmes animaux et tout animal qui est doué de sensations doit nécessairement et sans exception ou dormir ou veiller, puisque ces deux affections sont relativement à la sensation les deux seuls que puisse avoir le principe sensible. Mais il n'est pas possible que l'une des deux s'exerce constamment dans le même animal, c'est-à-dire que telle espèce d'animal dorme toujours ou que telle autre veille sans cesse. Paragraphe 8. En outre, pour tous les organes qui ont quelque fonction naturelle à remplir, quand on dépasse le temps durant lequel ils peuvent satisfaire à cette œuvre, quelle qu'elle soit, il faut nécessairement qu'il tombe dans l'impuissance. Ainsi, les yeux fatigués de voir cessent de voir. Il en est de même de la main et de tout autre organe qui accomplit quelque fonction. Mais si sentir est la fonction d'un organe quelconque, et si cet organe dépasse le temps durant lequel il était capable de sentir sans discontinuité, et n'exercera plus sa fonction. Que si la veille est caractérisée par le libre exercice de la sensibilité, et qu'il faille toujours que des deux contraires, l'un soit présent et l'autre absent, si en outre la veille est le contraire du sommeil, et que de toute nécessité l'un ou l'autre doivent se trouver dans tout animal, dormir sera une fonction indispensable. Paragraphe 9. Si donc le sommeil est une affection de ce genre, c'est-à-dire une impuissance de continuer la veille qui a dépassé ses limites, que d'ailleurs cet excès de veille soit morbide ou ne le soit pas, et que l'impuissance et la suspension d'activité qui le suit le soit ou ne le soit pas ainsi que lui, ce n'en est pas moins une loi nécessaire que tout être qui veille puisse aussi dormir, car il est impossible d'être toujours en activité. Par le même motif, il n'est pas possible non plus qu'aucun être puisse toujours dormir. Le sommeil est une certaine affection du principe sensible. C'en est l'enchaînement et l'immobilité. Ainsi, nécessairement, tout être qui dort doit posséder la partie sensible de l'âme. Or, l'on appelle sensible que ce qui peut sentir en acte et réellement. Mais faire acte de sensation au sens propre et absolu est impossible quand on dort. Voilà aussi pourquoi il faut nécessairement que tout sommeil puisse finir par le réveil. Paragraphe 10. Presque tous les animaux autres que l'homme ont comme lui la faculté du sommeil. Et cela peut se voir et dans les volatiles et dans les animaux aquatiques et terrestres. En effet, on a observé le sommeil de toutes les espèces de poissons et de mollusques, ainsi que de tous les autres animaux qui ont des yeux. Ceux qui ont les yeux durs, comme les insectes, dorment évidemment ainsi que les autres. Seulement, tous ces animaux dorment fort peu. Et voilà ce qui a fait souvent qu'on a pu douter pour plusieurs s'ils dorment ou s'ils ne dorment pas. Quant aux animaux recouverts de coquilles, on ne sait pas encore, par des observations directes, s'ils dorment réellement. Mais l'on s'en tiendra sur ce point à l'explication qu'on en donne si on la trouve plausible. Paragraphe 11. On voit donc que tous les animaux, sans exception, ont la faculté du sommeil, et en voici les raisons. Le caractère essentiel de l'animal, c'est la sensibilité qui seule le détermine. Et nous avons dit qu'en un certain sens, le sommeil est comme l'enchaînement et l'immobilité de la sensibilité, et que la veille en est comme la délivrance et l'exercice. Il n'y a ni sommeil ni veille. Les animaux qui sont doués de sensibilité pourront aussi éprouver les sentiments de peine et de plaisir. Et ceux qui ont ces deux ordres de sentiments ont aussi le désir. Or, dans les végétaux ne se trouve rien de tout cela. De plus, la preuve que, durant le sommeil, la partie nutritive de l'âme accomplit son œuvre bien mieux que pendant la veille, c'est que durant le sommeil, les êtres se nourrissent et s'accroissent bien davantage, comme s'ils n'avaient aucun besoin dans ces deux fonctions du secours de la sensibilité. Chapitre 2. Sommaire. Explication de la cause du sommeil et de la veille. Quel est le sens que ces fonctions modifient? Le toucher est accordé à tous les animaux et il est séparable des autres sens qui sont inséparables de lui. Le sens commun, qui concentre les perceptions de tous les autres sens, est surtout celui qu'affecte l'animal. Et ce sens étant réduit à l'inactivité, tous les autres deviennent impassibles et passifs comme il le devient lui-même. La cause du sommeil est le besoin indispensable de repos et de réparation qu'éprouvent tous les animaux régulièrement organisés. Le sommeil, affectant le principe sensible, il se rapporte au lieu même où réside le principe de la sensibilité et celui du mouvement qui se confond en lui. Ce lieu est le cœur. Organisation des animaux suivant qu'ils ont ou non pas de sang. Paragraphe 1. Voyons maintenant quelle est la cause qui fait qu'on dort et qu'on veille, et quel est le sens ou quels sont les sens, s'il y en a plusieurs, auxquels se rapportent ces fonctions. Paragraphe 2. D'abord, s'il y a certains animaux qui possèdent tous les sens, et s'il en est d'autres qui soient privés de quelque sens, par exemple de la vue et de l'ouïe, tous sont le toucher et le goût, en exceptant toujours les animaux incomplets. C'est ce dont on a déjà parlé dans le traité de l'âme. Or, il est impossible que l'animal qui dort sente véritablement par aucun de ses sens. Et il est aisé de se convaincre que nécessairement, cette disposition est bien celle de tous les animaux, dans cet état qu'on appelle le sommeil. Car si alors l'animal sentait par tel sens et ne sentait pas par tel autre, il aurait la sensation même de cet état quand il dort. Et c'est ce qui est impossible. Paragraphe 3. Mais d'autre part, chaque sens remplit à la fois une fonction spéciale et une fonction commune. La fonction spéciale à la vue, c'est de voir, à l'ouïe, d'entendre, et de même pour les autres sens. Mais il y a de plus une faculté commune qui accompagne tous les sens, laquelle, tout ensemble, voit, entend et sent. Ainsi, ce n'est certainement pas par la vue qu'on voit que l'on voit. Certes, si l'on juge et si l'on peut juger que les saveurs douces sont autres que les couleurs blanches, ce n'est pas par le sens du goût ni par celui de la vue, ni même par les deux réunis. C'est uniquement par une certaine partie de l'âme, commune à tous les organes sans exception. Car alors, la sensation est une, et l'organe qui domine tous les autres est un. Ce qui n'empêche pas que les sens de chaque genre de sensation ne soient différentes, et que les sens du son, par exemple, ne soient autres que celles de la couleur. Paragraphe 4. Or, cette fonction générale est simultanée, surtout au toucher, parce que ce sens peut être séparé de tous les autres, tandis que les autres sont inséparables de celui-là. C'est ce qui a été expliqué dans nos études sur l'âme. Il est donc évident que le sommeil et la veille sont des affections de ce sens. Et voilà aussi pourquoi ils appartiennent à tous les animaux, car il n'y a que le toucher qui soit commun à tous. En effet, si le sommeil avait lieu par suite d'une certaine modification dans l'un des organes des sens, il serait absurde que des sens qui ne doivent point nécessairement, ni même ne peuvent en aucune façon agir ensemble, dussent nécessairement cesser d'agir ensemble et rester dans une immobilité commune. Le contraire serait bien plus naturel, et la raison concevrait bien mieux qu'ils ne puissent être en repos à la fois. Paragraphe 5. L'explication que nous donnons ici n'est pas moins raisonnable même à ce point de vue. En effet, quand le sens qui domine tous les autres et auquel tous les autres aboutissent vient à éprouver quelque affection, il est tout simple que tous les autres, sans exception, doivent l'éprouver avec lui. Tandis que quand l'un d'eux, au contraire, vient à défaillir, il ne faut pas du tout nécessairement que celui-là souffre la même défaillance. Bien des faits peuvent prouver que le sommeil ne consiste pas précisément en ce que les sens cessent d'agir et refusent leur service, ni dans l'impuissance où ils sont alors de sentir. Ainsi, il en arrive tout autant dans les évanouissements, car l'évanouissement consiste dans l'impuissance des sens. Et il y a aussi quelques dérangements d'esprit qui produisent le même effet. On peut ajouter que ceux qui sont saisis par les veines du cou deviennent également insensibles. Mais quand cette impuissance à faire usage de ses sens n'affecte point seulement un organe quelconque, et n'est point amenée par une cause fortuite, mais que, comme on le dit ici, elle réside dans le principe même qui nous sert à tout percevoir, du moment que ce principe est réduit à l'impuissance, il y a nécessité que tous les autres organes des sens cessent également de pouvoir sentir. Au contraire, quand c'est seulement l'un d'eux qui cesse d'agir, il ne faut pas nécessairement que celui-là cesse aussi ses fonctions. Paragraphe 6. Il faut expliquer maintenant la cause qui détermine le sommeil et la nature de cette affection. Paragraphe 7. Mais d'abord, on distingue plusieurs espèces de causes. Ainsi, la fin en vue de laquelle se fait une chose, puis le principe d'où part le mouvement, en troisième lieu, la matière et enfin l'essence sont pour nous autant de causes distinctes. Nous disons donc, d'abord, que la nature agit toujours en vue de quelque fin et que cette fin est toujours un bien. Mais pour tout ce qui a naturellement un mouvement, sans d'ailleurs pouvoir conserver ce mouvement toujours et continuellement, le repos est nécessairement agréable et utile. Et c'est avec toute vérité que l'on applique cette métaphore au sommeil, qu'on regarde comme un repos et un délassement. Par conséquent, le sommeil est donné aux animaux en vue de leur conservation. Mais la fin en vue de laquelle le sommeil a lieu c'est la veille. Car sentir et penser est la fin véritable de tous les êtres qui ont l'une ou l'autre de ces facultés, parce qu'elles sont leur plus grand bien, et que la fin de chaque être est toujours son bien le plus grand. Ainsi, il faut nécessairement que la fonction du sommeil appartienne à tout animal sans exception. Paragraphe 8. Je dis nécessairement en faisant l'hypothèse que si l'animal a bien la nature qui lui est propre, alors nécessairement, il faut qu'il soit doué de certaines facultés et que du moment qu'il a ces facultés, il faut aussi qu'il en ait certaines autres. Paragraphe 9. Nous dirons plus tard quels mouvements et quelles actions sont indispensables dans le corps des animaux pour les fonctions de la veille et du sommeil. Quant aux animaux qui n'ont pas de sang, on doit supposer que les causes de cette affection sont chez eux les mêmes que chez ceux qui ont du sang. Ou du moins que si elles ne sont pas identiques, elles sont analogues. Pour les animaux qui ont du sang, elles doivent être les mêmes que chez l'homme. C'est donc par l'observation de ces derniers êtres que nous devons expliquer tout le reste. Paragraphe 10. Que le principe de la sensibilité vienne dans les animaux de la même partie d'où leur vient le principe du mouvement, c'est ce que nous avons établi antérieurement ailleurs. Le corps ayant trois lieux déterminés, le principe est le lieu central situé entre la tête et le bas-ventre. Dans les animaux qui ont du sang, c'est la partie qui environne le cœur. Car tous les animaux qui ont du sang ont un cœur, et c'est de là que part le principe du mouvement et de la sensibilité supérieure. Il est évident que c'est là qu'est placé, outre le principe du mouvement, le principe de la respiration et d'une manière générale celui du refroidissement. Aussi, les êtres qui respirent et ceux qui sont refroidis par l'eau ont-ils été organisés par la nature de façon à pouvoir conserver la chaleur qui est dans cette partie. Du reste, nous parlerons plus tard de ce principe considéré en lui-même. Pour les animaux qui n'ont pas de sang, les insectes et ceux qui ne reçoivent pas l'air, il semble que le souffle qui est inné à leur nature s'enfle et s'abaisse dans la partie correspondante de leur organisation. C'est ce qu'on peut observer dans les insectes à ailes pleines comme les guêpes, les abeilles, les mouches et autres animaux de ce genre. Paragraphe 11. Mais il est impossible qu'un mouvement ou une action s'exécute sans une certaine force. Or, retenir son souffle donne de la force, soit que ce souffle vienne du dehors, comme dans les animaux qui reçoivent l'air au-dedans d'eux, ou qu'il soit intérieur et congénital, comme dans ceux qui ne respirent pas. Voilà aussi, à ce qu'il semble, pourquoi les insectes ailés bourdonnent quand ils se meuvent. C'est le bruit de l'air qui se brise en tombant sous le corselet des insectes à ailes pleines. Paragraphe 12. Mais l'animal ne se meut jamais que parce qu'il a éprouvé dans le principe sensible une sensation, qui d'ailleurs peut lui être propre ou lui être étrangère. Si donc le sommeil et la veille sont des affections de cette partie, on voit clairement quels sont le lieu et la partie dans lesquelles se produisent primitivement le sommeil et la veille. Paragraphe 13. Il y a quelques gens qui, en dormant, se meuvent et font beaucoup d'actes propres à la veille. Mais ce n'est jamais sans image et sans quelques sensations, car le rêve est bien une sorte de perception. Nous reviendrons plus loin sur ce sujet. Paragraphe 14. Nous avons expliqué aussi dans nos problèmes Comment il se fait qu'on se souvienne des songes quand on est éveillé, bien qu'on ne se rappelle pas toujours les actes faits pendant la veille? Chapitre 3. Sommaire. Conditions physiologiques du sommeil. Le sommeil se rapporte à la nutrition et vient de l'évaporation intérieure produite par les aliments. Somnolence après les repas. Effet des narcotiques, de la fatigue et de certaines maladies. Disposition de l'enfance au long sommeil. Action du vin sur les enfants. Constitution plus ou moins portée au sommeil. Les mélancoliques. Dans le sommeil, la chaleur naturelle se concentre à l'intérieur. Disposition du cerveau. Ses rapports avec l'action du cœur et le mouvement du sang. Résumé de ce traité. Paragraphe 1. Une suite de ce qui précède, c'est d'étudier les circonstances qui accompagnent le sommeil et la veille, et de voir quel est le principe de cette affection. Paragraphe 2. Il est d'abord de toute évidence que l'animal, dès qu'il a la sensibilité, doit nécessairement prendre de la nourriture et par la nourriture, son accroissement. Dans tous les animaux qui ont du sang, c'est la nature du sang qui est en définitive ce qui les nourrit. Et dans les animaux qui n'ont pas de sang, c'est le fluide qui correspond au sang. Le lieu du sang, ce sont les veines. Et le principe des veines, c'est le cœur. On peut bien s'en convaincre par l'anatomie. Dès que les aliments arrivent du dehors, dans les lieux propres à les recevoir, il y a évaporation dans les veines. Là, les aliments subissent un changement qui les convertit en sang, et ils se dirigent vers le principe, c'est-à-dire vers le cœur. On a expliqué tout cela dans le traité de la nourriture. Mais ici, il ne faut résumer nos explications à ce sujet que pour bien en faire voir quels sont les principes du mouvement et quelle est la modification que doit éprouver la partie sensible de l'âme pour que le sommeil et la veille puissent avoir lieu. Paragraphe 3. En effet, le sommeil n'est pas, je le répète, une impuissance quelconque de sentir. La folie, la suffocation et l'évanouissement peuvent amener une impuissance de ce genre. Quelquefois même, l'imagination subsiste encore avec toute sa vivacité chez ceux qui éprouvent une syncope. Ceci offre donc quelques difficultés, car s'il est possible de dire qu'on dort quand on est évanoui, il se pourrait aussi que l'image vue dans cet état fût un rêve. Or, il y a beaucoup de choses racontées par ceux qui ont éprouvé de ces longs évanouissements et qui semblaient être morts. Et tous ces accidents doivent être rapportés à une même explication. Paragraphe 4. Mais comme nous l'avons dit, le sommeil n'est pas toute impuissance quelconque de la sensibilité. Cette affection ne vient que de l'évaporation que produit la nourriture. Il faut que tout ce qui s'évapore monte jusqu'à un certain point, puis revienne en sens contraire et subisse un changement comme les flots de l'Euripe. Or, la chaleur qui est dans chaque animal se porte naturellement à la partie supérieure. Et une fois arrivée aux parties les plus hautes, alors, elle retombe en masse et se dirige en bas. Voilà pourquoi le sommeil vient surtout après les repas. Car à ce moment, l'humidité qui est considérable et fort épaisse est portée en haut. Et s'y arrêtant, elle alourdit et fait sommeiller. Puis, quand elle redescend et qu'en rétrogradant elle chasse la chaleur, alors vient le sommeil. Et l'animal s'endort. Alors vient le sommeil et l'animal s'endort. Paragraphe 5. L'effet des narcotiques prouve bien ce que nous avançons. Tous les narcotiques donnent des pesanteurs de tête, ce qu'on boit comme ce qu'on mange. Le pavot, la mandragore, le vin, l'ivraie. Frappé de vertige et tout endormi, on voit alors les gens qui en ont pris ne pouvoir relever la tête ni ouvrir les paupières. Et c'est surtout après le repas qu'on est saisi de ce sommeil pesant parce que l'évaporation qui vient alors des aliments est considérable. Paragraphe 6. Parfois encore, le sommeil arrive à la suite de certaines fatigues, car l'effet de la fatigue, c'est de relâcher le corps et de le liquéfier. Et tout relâchement est une sorte d'indigestion, à moins qu'il ne soit froid. Il y a encore certaines maladies qui produisent le même effet, celles qui viennent d'un excès d'humide et de chaud. Et c'est ce qu'on observe dans la fièvre et dans les léthargies. Paragraphe 7. La première enfance est sujette aussi à ce lourd sommeil, car les enfants dorment beaucoup, parce que toute la nourriture se porte en haut. Et ce qui le prouve bien, c'est que dans le premier âge, la grandeur des parties supérieures l'emporte de beaucoup sur les parties inférieures, parce que c'est surtout vers le haut du corps que se fait le développement. Paragraphe 8. Telle est également la cause qui les rend épileptiques. Le sommeil en effet ressemble à l'épilepsie et, dans un certain sens, c'est une épilepsie réelle. Il ne faut donc pas s'étonner que fort souvent cette affection commence durant le sommeil et que l'accès ait lieu quand on dort et qu'il cesse avec le réveil. En effet, quand l'air, après cette portée en haut, en quantité considérable, redescend ensuite, il gonfle les veines et rétrécit l'ouverture par où la respiration a lieu. Paragraphe 9. Voilà aussi pourquoi le vin ne vaut rien aux enfants, non plus qu'à leurs nourrices. Car que ce soit les enfants eux-mêmes ou les nourrices qui en boivent, cela revient à peu près au même. Il faut que les enfants boivent le vin trempé de beaucoup d'eau et en petite quantité, parce que le vin est spiritueux, et surtout le vin de couleur foncée. Les parties supérieures du corps, chez les enfants, sont tellement pleines de nourriture que, même à 5 mois, ils ne peuvent pas encore tourner le cou. C'est que chez eux, de même que chez les gens qui sont tout à fait ivres, une quantité énorme d'humidité se porte en haut. Paragraphe 10. C'est là, très probablement aussi, ce qui fait que les fœtus restent d'abord immobiles dans le sein de la mère. Voilà encore pourquoi, en général, les gens les plus portés au sommeil sont ceux qui ont de petites veines et ceux qui sont conformés dans le genre des nains et qui ont de très grosses têtes. Chez les premiers, en effet, les veines sont tellement étroites que l'humidité qui redescend ne peut facilement y circuler, de même que chez ceux qui sont conformés comme les nains et ont la tête très forte, l'impulsion vers le haut et l'évaporation sont très violentes. Au contraire, ceux qui ont de larges veines ne sont pas dormeurs, parce que la circulation est très facile dans leur vaisseau, à moins qu'il n'ait quelque autre affection qui la trouble. Paragraphe 11. Les mélancoliques ne sont pas non plus très dormeurs parce que l'intérieur de leur corps est toujours froid et que par conséquent il n'y a pas chez eux une évaporation abondante. C'est là également ce qui les rend grands mangeurs et leur donne une chair dure, car leur corps est toujours comme s'il ne pouvait rien absorber. C'est que la bile noire, étant froide de sa nature, rend froide comme elle le lieu où se fait la nutrition et les autres parties où devrait pouvoir s'opérer l'excrétion. Paragraphe 12. Il résulte donc évidemment de ce qui précède que le sommeil est une sorte de concentration de la chaleur au-dedans et une répercussion qui tient à la cause qu'on a dite. Voilà aussi pourquoi on se remue beaucoup durant le sommeil. Du moment qu'on commence à perdre connaissance, on se refroidit. Et par suite de ce refroidissement, les paupières s'abaissent. Ce sont les parties supérieures et celles du dehors qui deviennent froides. Mais les parties intérieures et celles d'en bas sont chaudes. Par exemple, les pieds et le dedans du corps. Paragraphe 13. On pourrait, cependant, demander ici pourquoi le sommeil est plus fort après le repas. Et pourquoi le vin et toutes les substances de ce genre, qui ont beaucoup de chaleur, provoquent le sommeil? Il semble contradictoire d'avancer que le sommeil soit un refroidissement et de soutenir que les choses qui causent le sommeil soient chaudes. Doit-on dire que, de même que quand l'estomac est vide, il est chaud, et que la réflexion le refroidit par le mouvement qu'elle lui donne? De même aussi, les pores et les lieux divers qui sont dans la tête sont refroidis quand l'évaporation s'y porte. Ou bien, doit-on dire que, comme le frisson saisit tout à coup ceux qui boivent une boisson chaude, de même ici, la chaleur venant à monter, et le froid qui se concentre refroidit le corps et réduit à l'impuissance la chaleur naturelle qu'il chasse. Paragraphe 14. Cet effet se produit encore quand la nourriture ingérée en quantité considérable est soulevée par la chaleur. C'est alors comme le feu, au moment où l'on met du bois dessus. Et cet effet dure jusqu'à ce que la nourriture ait été digérée. C'est que le sommeil a lieu, ainsi qu'on l'a déjà dit, quand une évaporation trop matérielle est portée par la chaleur au travers des veines jusqu'à la tête. Mais quand la masse ainsi soulevée ne peut plus monter parce qu'elle est trop considérable, elle se trouve alors repoussée en sens contraire et elle coule en bas. Paragraphe 15. Voilà comment les hommes se couchent, quand la chaleur qui poussait en haut vient à être soustraite, car l'homme est le seul des animaux qui se tiennent debout. Et du moment que la chaleur retombe, on perd connaissance et bientôt, c'est l'imagination toute seule qui agit. Les explications que l'on vient de donner ici paraîtront-elles suffisantes pour rendre compte de la cause du refroidissement? Paragraphe 16. Quoi qu'il en soit, c'est bien toujours le lieu du cerveau qui est le siège principal du sommeil, comme on l'a dit ailleurs. Le cerveau est tout ce qu'il y a de plus froid dans le corps. Et dans les animaux qui n'ont pas de cerveau, c'est la partie qui le remplace. De même donc que l'humide vaporisé par la chaleur du soleil, en arrivant à la région supérieure, s'y refroidit par le froid qu'il y trouve, et se condensant, retombe de nouveau sous forme d'eau. De même, dans le mouvement d'ascension de la chaleur au cerveau, l'évaporation des excrétions se tourne en humeur flegmatique. Et c'est là aussi pourquoi l'on voit les catarrhes venir de la tête. Tandis que l'évaporation qui est capable de nourrir le corps et qui n'a rien de morbide est portée en bas quand elle s'est condensée et y tempère la chaleur. Paragraphe 17. Ce qui aide encore à ce refroidissement et contribue à ce que l'évaporation ne pénètre pas trop aisément, c'est la ténuité et l'étroite dimension des veines qui entourent le cerveau. C'est donc là ce qui est cause du refroidissement, malgré l'excessive chaleur de l'évaporation. Mais on se réveille quand la chaleur qui, sortant abondamment de toutes les parties environnantes, a été resserrée en un petit espace et digérée et qu'elle est devenue dominante. Et alors, aussi, la partie la plus substantielle et la plus pure du sang est sécrétée. Le sang qui est dans la tête est le plus léger et le plus pur, tandis que le plus épais et le plus bourbeux et celui qui est dans les parties inférieures. Et c'est le cœur qui, comme on l'a dit, soit ici, soit ailleurs, est le principe de tout le sang. Paragraphe 18. Quant aux parties qui sont dans le cœur, la veine médiane est commune aux deux ventricules, et chacun d'eux reçoit le sang de l'une et l'autre veine, c'est-à-dire et de celle qu'on appelle la grande veine et de l'autre. Et la sécrétion du sang a lieu dans la veine médiane. Mais ces détails appartiennent plus spécialement à d'autres études. Paragraphe 19. C'est parce que la sécrétion du sang est beaucoup moins facile après l'ingestion de la nourriture que le sommeil survient. Et il a lieu jusqu'à ce que la partie la plus légère du sang se sépare et aille en haut, et que la partie la plus bourbeuse se précipite en bas. Quand cette séparation est accomplie, on s'éveille, délivré du poids de la nourriture. Paragraphe 20. Telle est donc la cause qui fait dormir. C'est la répercussion énergique sur le principe sensible de l'élément substantiel porté en haut par la chaleur naturelle. Nous savons aussi ce qu'est le sommeil. C'est l'envahissement du principe sensible réduit à ne plus pouvoir agir. Enfin, nous savons que cette fonction est nécessaire parce que l'animal ne peut vivre sans les conditions qui le constituent. Et le sommeil lui est indispensable pour sa conservation parce que c'est le repos qui le conserve. Fin du traité du sommeil et de la veille.